d'un continent. Quand la diaspora africaine rentre en Éthiopie. Elikia Mbokolo. Diaspora, voilà un mot qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui et un phénomène qui est de plus en plus étudié à mesure que les gens commencent à se rendre compte de l'importance des diasporas, importance humaine, mais aussi importance politique, importance culturelle. Beaucoup d'ailleurs soulignent aussi l'importance financière, car ces diasporas génèrent des mouvements de capitaux à travers le monde. On insiste beaucoup sur certaines de ces diasporas, la diaspora arménienne, la diaspora juive, la diaspora basque, etc. Mais parmi ces diasporas, la diaspora africaine occupe de toute évidence une place à part. En effet, il est clair que les gens qui ont quitté chez eux pour aller de par le monde ne le font pas toujours avec joie et avec plaisir. Ils y sont parfois poussés par des persécutions, par des troubles économiques et autres. Mais dans le cas de l'Afrique, la violence, l'arrachement, la brutalité et la mise en servitude ont constamment été le facteur essentiel de la déportation. C'est donc dans cette diaspora que très tôt, on a trouvé non seulement la nostalgie du pays du départ, mais aussi le désir très ardent de rentrer un jour dans ce pays du départ. Question cependant, pour ces Africains de la diaspora, quel est le pays du départ? Et donc, l'histoire a fait que, pour toutes sortes de raisons, c'est sur l'État le plus ancien, l'État le plus prestigieux, l'État qui a réussi dans son histoire à vaincre des velléités de colonisation que va se cristalliser le désir du retour. Cet État, évidemment, c'est l'Éthiopie. Julia Bonacci, vous êtes historienne, vous avez consacré vos travaux, notamment une très belle thèse de doctorat, à ces phénomènes de retour. Et vous avez été, j'allais dire, au fin fond de l'Éthiopie, dans un lieu, un village, une petite ville, Chachamané, où vous avez trouvé des Africains qui non seulement ont parlé de la diaspora, mais qui sont revenus, entre guillemets, revenus dans ce qu'ils considèrent comme leur pays de départ. Alors, Chachamané, qu'est-ce que c'est ?
Chachamané est une ville à 250 km au sud de la capitale Addis Abeba. C'est une ville aujourd'hui de 100 000 habitants, qui a grandi très vite dans ces 50 dernières années. Et à la périphérie de cette ville, il y a effectivement une communauté caribéenne d'environ 300 personnes qui vit là, qui est installée là. Ce sont pour la plupart des Rastafariens qui se disent éthiopiens, rentrés chez eux en Éthiopie, et ils sont installés sur des terres autrefois offertes par l'empereur Haïlé Sélassié.
Ces dons de terres, ça se passe donc quand au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle.
Dans le cadre de ces terres-là, surtout après la guerre italo-éthiopienne qui s'est donc finie en 1941. Après cela, l'empereur a décidé de mettre en place une politique de remerciement et de redistribution de ces terres du sud sur lesquelles l'empire éthiopien s'était étendu. Et il n'a pas oublié les communautés noires des Amériques qui avaient soutenu l'effort de guerre éthiopien. Il leur a donc offert 200 hectares de terre à la périphérie de Chachamané, qui à l'époque était une bourgade, c'était donc des terres rurales.
Et ces terres donc ont permis l'enracinement de cette communauté. Vous dites donc que ce sont surtout des Jamaïcains. Enfin, il y a aussi des Américains là-dedans. Il y a beaucoup de Noirs de la diaspora dans le Nouveau Monde. Il y en a, par exemple, en Martinique, en Guadeloupe, au Brésil. Pourquoi est-ce principalement depuis la Jamaïque que les gens sont partis ?
Alors, il y a peut-être deux raisons qu'on peut identifier. La première, c'est que ces terres ont été données en administration à une organisation qui s'appelait la Fédération mondiale éthiopienne. Elle avait été fondée sur ordre de l'empereur Haïlé Sélassié en 1937 à New York avec comme objectif de canaliser les fonds et le soutien des communautés noires pour l'Éthiopie. Et c'est donc une organisation qui s'est développée, étendue dans des espaces anglophones, notamment entre New York et la Jamaïque, mais qui avait des branches également dans d'autres espaces caribéens. Et à un moment, les Jamaïcains ont décidé de se réapproprier cette organisation, qui était parfois un peu réticente, il faut l'avouer, à avoir des Rastafariens avec des pratiques étranges qui devenaient membres. Mais les Rastafariens de Kingston, le local 43, s'est engagé dans cette association pour pouvoir effectuer son retour en Afrique.
Et nous allons entendre un air de musique que nous allons commenter parce que ça va dans le sens de cette histoire fabuleuse du retour vers l'Éthiopie.
Repatriation, repatriation, repatriation. No mean that you run go Africa. Boy, I figure stay where your brother. Boy, I figure run where your sister. Boy.
Giulia Bonacci, voilà de la bonne musique, mais qu'il faut entendre par le contenu qu'il y a dedans. De quoi s'agit-il?
Bon, Burning Spear est un grand artiste de reggae, mondialement connu, de la même carrure que Bob Marley. Et c'est une chanson très touchante parce qu'elle rappelle à ceux qui l'écoutent que leur identité est aussi africaine et qu'ils ont un rôle à jouer en Afrique. Il pousse donc, il encourage les artisans, les travailleurs, les gens qui ont des compétences à aller s'engager en Afrique et à rapatrier en Afrique. C'est donc à la fois un message d'espoir, un projet de retour et en même temps une critique sociale de la Jamaïque. Cette idée de retour en Afrique est indissociable d'une critique des sociétés noires des Amériques.
Issues de l'esclavage et dans lesquelles les conditions de vie restent difficiles, tout comme d'ailleurs la vie politique. Nous avons parlé de la Fédération éthiopienne mondiale. Ça n'est pas la seule organisation qui s'est occupée de ces rapatriements en Éthiopie, il y en a eu d'autres.
Effectivement, il y en a eu une deuxième, les 12 tribus d'Israël, qui a, elle, été fondée en 1968, un petit peu en réaction aux difficultés administratives de la Fédération mondiale éthiopienne. Et les 12 tribus d'Israël se sont, depuis lors, développées internationalement. Hein, c'est une des plus grosses organisations de Rastafariens. Bob Marley et quantité d'autres artistes de reggae en faisaient partie. Et les 12 tribus d'Israël ont financé le voyage de plusieurs dizaines de membres, notamment à la fin des années 60 et au début des années 1970. Et le retour à Shashamane fait partie intégrante des doctrines et de la propagande de cette organisation.
Alors, il y a de l'argent qui est collecté. On imagine qu'il y a des problèmes bureaucratiques pour organiser ces voyages. Mais on peut penser aussi qu'il doit y avoir quelques aventureux qui n'acceptent pas d'entrer dans des contraintes de structures organisées et qui vont y aller tout seuls. Vous en avez certainement rencontré un certain nombre.
Oui, et puis il y a parfois des personnages tout à fait même extraordinaires. Hein, on peut penser à Noël Dyer, ce Jamaïcain né au début des années 1930, déjà rastafarien en Jamaïque, qui émigre en Angleterre, comme beaucoup de Jamaïcains, à la fin des années 50, et qui, après 3 ans passés en Angleterre, se dit vraiment, chez moi, ça ne peut pas être ici. Et alors, il part à la gare de Londres, avec quelques sous en poche, prend le train pour arriver en France, travaille là-bas pour se financer, descend jusqu'en Espagne, traverse l'étroit de Gibraltar, et à pied, essaye de rejoindre l'Éthiopie. Hein. Il est arrivé jusqu'au Soudan, et puis après plus d'un an de voyage, et les Soudanais étaient un petit peu gênés de ce Rasta qui voulait aller à pied jusqu'à Sion, ils ont appelé les Éthiopiens, alors on dit prenez-le, nous, on n'en veut pas. Et donc Noël d'ailleurs, sans papier, hein, sans visa, sans argent, avec juste une détermination incroyable, est arrivé à pied jusqu'en Éthiopie, jusqu'à Shashamane.
Giulia Lucia Bonacci, dans vos travaux, vous montrez très bien que le retour en Éthiopie s'est fait selon plusieurs vagues. Il y a donc cette première vague qui va des années 40 jusqu'au milieu des années 60, où il y a des Noirs américains et des Antillais, hein, parlons ainsi. Et puis il y a une deuxième vague dont fait partie ce personnage très haut en couleur. Et alors, cette deuxième vague va être confrontée à l'histoire politique intérieure de l'Éthiopie, puisque depuis le début des années 70, la situation économique, sociale est très difficile en Éthiopie, et l'empereur, celui qui incarne justement et la renaissance de l'Éthiopie et la vitalité des peuples noirs, est renversé par une révolution. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de 74-75? Comment est-ce que le DERG, donc le gouvernement révolutionnaire, va-t-il prendre en charge ou ne pas prendre en charge ces gens qui sont revenus, disons, sur une sorte de foi politique et spirituelle en même temps?
La révolution éthiopienne, qui est le fruit de toute une série d'événements et des dynamiques de changement social propres à l'Éthiopie, a été en fait un coup dur pour cette communauté issue de la diaspora et installée à Shashamane. Un coup dur parce que les 200 hectares de terre ont été perdus, les terres ont été nationalisées, et donc seulement quelques parcelles ont pu être sauvées par les uns ou les autres. Un coup dur parce que toutes les récoltes qui avaient été mises en place par ces caribéens ont été perdus, et un coup dur parce que, alors qu'ils étaient communément associés à l'empereur Haïlé Sélassié, ils se retrouvaient marginalisés, insultés à cause de leur attachement à l'empereur Haïlé Sélassié, et beaucoup d'entre eux sont partis. Ils craignaient pour leur vie, la situation locale était très difficile, et seulement quelques-uns ont pu rester, alors qu'au même moment, des jeunes envoyés justement par les 12 tribus commençaient d'arriver à Shashamane. Donc le gouvernement militaire, le DERG, s'il n'a jamais menacé directement cette communauté caribéenne, et même, l'on pourrait dire, l'admirait un peu, admirer le nationalisme de ces étrangers qui étaient prêts à rester en Éthiopie alors que les Éthiopiens, eux, fuyaient en masse. Donc, aucune menace directe, mais une marginalisation politique, une stagnation économique complète, donc des années extrêmement dures pour ces Caribéens et d'ailleurs pour les Éthiopiens aussi. Finalement, le seul geste fait par le gouvernement militaire a été de redistribuer 18 petites parcelles à côté de Shashamane pour permettre à ces familles caribéennes qui grandissaient de pouvoir vivre dans des conditions un petit peu meilleures, même s'il a fallu attendre les années 90 pour qu'ils puissent effectivement avoir le droit et les finances pour construire des maisons.
Ethiopia, land is best of all. Repatriate, I mean, we take it all. No plan for you and I, man. Work hard and make we don't be denied. Africa,
Lucia Bonacci, vous avez fait plusieurs enquêtes à Shashamane, vous y avez vécu plusieurs mois. Ces gens qui sont rentrés, qui se considèrent comme éthiopiens, sont-ils considérés comme toujours des étrangers, on peut peut-être même dire des immigrés, ou sont-ils assimilés au reste de la population avec le privilège donc du droit du retour au pays considéré comme le pays natal?
Il faut peut-être juste, avant de répondre, souligner une chose, c'est que après le changement de régime en 91, il y a eu de plus en plus d'arrivées à Shashamane. Donc c'est une communauté en constante augmentation, communauté au sein de laquelle les rapatriés sont forcément attachés à leur langue, à leur culture, à leur identité. Ils célèbrent les différentes fêtes Rasta, etc. Ils ne vivent pas pour autant repliés sur eux-mêmes. Ils se marient avec des Éthiopiens, il y a des familles mixtes, et ils développent toute une série de liens économiques avec les Éthiopiens qui les entourent. Donc des commerces, des services ont été développés, des ateliers, de l'artisanat, toute une série de choses. Ces Caribéens partagent la plupart des difficultés des Éthiopiens, économiques, l'instabilité politique du pays général, etc. Et ils ont en plus les problèmes propres aux étrangers. Pas de papier, des accès difficiles à la nationalité et pas de droits en fait, de leur côté. Bon, ils ont aussi les avantages des étrangers, hein. C'est qu'ils ont des relations internationales qui leur permettent d'avoir un accès, notamment aux finances, assez intéressant.
Ils parlent toujours anglais ou le, comment dire, j'allais dire patois, mais disons le, oui, le patois jamaïcain ou autre, où ils commencent à parler l'amharique et à se fondre donc avec les gens.
Alors tous les Anglais de l'Empire britannique sont parlés là-bas. La plupart des personnes apprennent l'amharique. S'il y avait des structures d'accueil mises en place dans le pays pour permettre justement un apprentissage rapide des langues, cela serait un pas en avant dans le dialogue des cultures et la connaissance entre les peuples.
Mais alors, ce flux, ce mouvement d'arrivée, aujourd'hui l'Éthiopie est sortie de la situation un peu chaotique qu'elle avait connue, donc ça continue de se poursuivre jusqu'aujourd'hui.
Je dirais même de plus en plus, parce que les personnes issues des diasporas ont peut-être un accès un petit peu plus facile à la finance qu'autrefois. Hein, on est dans un monde où on est quand même relativement plus mobile qu'il y a 40 ou 50 ans. Donc il y a non seulement des arrivées nombreuses de personnes qui cherchent à s'installer et à rester vivre en Éthiopie, mais également des investisseurs issus de la diaspora et rastafariens pour la plupart, des touristes, hein, il y a un tourisme spirituel qui se développe en Éthiopie, qui draine des centaines de personnes tous les ans, et il y a donc non seulement des arrivées plus importantes, mais des allers-retours beaucoup plus importants qu'auparavant.
Voilà, tout le monde a reconnu Exodus de Bob Marley. Alors, restituez-le quand même dans toute cette question de la diaspora, du retour, parce que les gens, en général, l'écoutent, dansent, fredonnent l'air, sans toujours prendre la peine d'abord d'entendre précisément ce que Marley dit et de réfléchir à ce qu'il est en train de dire.
Oui, c'est une chanson qui parle de l'exode. Hein. L'exode, c'est la sortie d'Égypte. Hein. C'est le retour vers la terre promise des descendants d'Africains. Et ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est que ces descendants d'Africains sont identifiés comme le peuple de Dja, donc comme les Rastafariens, mais surtout que leur retour dépend de l'unité du continent. C'est-à-dire que Bob Marley met en scène cette conscience panafricaine. Il faut que le continent africain puisse être uni afin que quelque chose se passe entre l'Afrique et ses diasporas.
On ne peut pas parler du retour sans parler de Bob Marley, parce qu'il a été la figure la plus visible et la plus éclatante du mouvement Rasta, et parce que Bob Marley aussi a des relations particulières, on peut même dire au-delà de sa mort, avec l'Éthiopie.
Oui, bon, de son vivant, il avait rencontré des membres de la famille royale éthiopienne, il avait voyagé en 78 en Éthiopie, il avait été jusqu'à Chachamané, et en février 2005, l'Éthiopie, décidant de mettre en scène son identité panafricaine, recevait un grand festival organisé par la fondation Rita Marley, avec concerts, expositions, discussions, etc., pour fêter les 60 ans de Bob Marley.
Et c'est donc sur cette belle, célèbre et importante chanson que s'arrête Mémoire d'un continent. L'équipe de Mémoire vous retrouvera très bientôt. Isabelle Godinot, Thomas Ferrière et Likia Mbokolo.
Pour nous écrire par email, continent@rfi.fr.